Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne et on a vraiment le sentiment d'un nouveau calendrier. Pourquoi? Parce que demain, c'est la rentrée scolaire déjà. Déjà. Et donc, on voit déjà les familles qui sont de retour, on est prêts. D'autres sont peut-être encore en vacances. Mais c'est une nouvelle page du calendrier qui nous permet un peu de nous projeter. Et on commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui va nous occuper jusqu'en novembre. Donc ça m'a fait réfléchir un peu au passage du temps. Bien sûr, c'est la fin d'un long chapitre pour Ray et Catherine. Mais où étions-nous? Où étiez-vous en novembre 2025? Ça fait déjà un moment, 2025, novembre, certains étaient déjà parmi nous. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. D'autres sont arrivées, d'autres choses ont commencé, peut-être d'autres choses ont changé dans votre vie. Je pose cette question parce que si vous étiez ici en novembre 2025, on fermait à ce moment-là une série en 1 Samuel, une série des prédications. On avait parcouru tous les premiers livres de Samuel. Et en fait, le deuxième livre de Samuel, qui à l'origine formait un tout, est celui qui va nous préoccuper maintenant. Et 2 Samuel commence avec la suite immédiate de la fin de 1 Samuel. Samuel, pour vous rappeler, était un prophète en Israël environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et il y avait deux rois à son époque. Ce n'est pas l'histoire des rois en tant que tel, mais c'est l'histoire de Samuel, parce que c'est Samuel qui a désigné ces rois. Le premier qu'il a désigné, c'était Saül, un homme plus âgé. Et puis David, un jeune, un soldat d'une autre famille. David avait été désigné comme successeur après avoir battu Goliath. C'est pour ça qu'on parle de David et Goliath, qui sont bien connus. Mais il n'était pas encore sur le trône. Il n'était pas encore dans un palais. Et donc il y avait ces deux rois, le roi courant et puis le futur roi, qui se côtoyaient et qui ne s'entendaient pas. On voyait en fait dans le premier volume que Saül avait le pouvoir et il détestait David. Jaloux de lui et il luttait contre lui, le pourchassait même pour le faire mourir. David, à un certain moment, a dû fuir pour éviter de mourir par la main de Saül. Mais Dieu a protégé David toute sa vie et c'est Saül qui va mourir à la fin, chapitre 31, 1 Samuel 31. Et on reprend le récit en 2 Samuel, chapitre 1. Je vais tout lire. Je ne vais pas tout commenter, mais je vais tout lire et je vous invite à suivre cela avec moi dans votre Bible. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag et il y passa 2 jours. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda: D'où viens-tu? L'homme lui répondit: Je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit: Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Il répondit: Le peuple s'est enfui du champ de bataille, beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts, même Saül et son fils Jonathan sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors: Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or, Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit: Me voici. Il m'a demandé: Qui es-tu? Je lui ai répondu: Je suis Amalécite. Il a dit: Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie ou encore vivant. Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. David attrapa ses habits et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: D'où viens-tu? Il répondit: Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort? Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, approche-toi et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut, tandis que David lui disait, que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ne l'annoncez pas dans Gath, n'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon, les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Mon Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique, il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? Cette série de prédications, on va l'appeler « Conquête et chute ». C'est le nom de la série. Pour toute cette période, tout le livre qu'on va parcourir, conquête et chute. Et ici, on a déjà une conquête. Verset 1, David vient de conquérir les Amalécites. Et puis, verset 27, la chute, les héros sont tombés. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de la mort de Saül, la mort du roi. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire quand le Messie tombe. C'est le titre de ce message. Quand le Messie tombe. On va parler beaucoup de ce mot Messie, le roi messianique, parce qu'on comprend en fait que Saül, ce n'est pas n'importe quel roi, ce n'est pas juste comme le roi des Belges ou le roi d'un autre royaume. Ça va être pertinent pour nous parce qu'on va comprendre que Dieu a désigné Saül comme roi. Il a reçu une onction d'huile qui était le signe qu'il devenait roi. Mais c'était surtout le signe que Dieu voulait qu'il soit roi. Et donc c'est une royauté particulière, la mort du Messie. Ça va être pertinent pour nous parce que nous avons aussi un Messie. Notre Messie n'est pas Saül ni David, mais Jésus, le fils de Saül, qui est appelé le Messie ou qui est appelé aussi Christ, c'est le mot grec pour la même chose, désigné par onction pour être le roi du royaume de Dieu. Donc ce qui est écrit ici n'est pas une allégorie, c'est pas une histoire inventée, c'est une vraie histoire, c'est une histoire historique, si je peux dire ça comme ça, mais qui nous permet de comprendre la forme d'un roi messianique, l'impact d'un roi messianique. Donc à travers ce livre, je pense qu'on va voir plusieurs fois l'ombre du Messie, le type de Messie, et comment est un roi messianique dans le royaume de Dieu. Si vous avez déjà un concept d'un roi messianique, peut-être que vous pensez immédiatement à un roi conquérant. Et c'est vrai qu'on attend du roi qu'il va lutter, qu'il va conduire des guerres et qu'il va gagner. C'est vrai, tout le monde aime ça, un roi victorieux, un champion. Mais parfois David nous a montré une autre facette du roi messianique, parce que David a été un serviteur et il a été un roi qui souffre. C'est aussi une partie importante du Messie. Aujourd'hui, nous verrons ce qui se passe quand le Messie meurt, quand le Messie tombe. Et on va voir trois choses. Tout d'abord, tout son peuple souffre. Tout le peuple de Dieu souffre lorsque le Messie meurt. On voit que la mort de Saül n'affecte pas que la famille de Saül et ses proches. En réfléchissant à ça cette semaine, je me suis rendu compte que la mort de certains prend plus de place que la mort des autres. Vous avez remarqué ça? Une actrice meurt, elle est morte cette semaine, panetière, et puis plein d'articles sont écrits sur elle. On ne la connaissait pas avant, maintenant tout le monde la connaît. Ou un couple meurt en Grèce dans un accident d'hélicoptère et on connaît leur nom. Un couple qui est mort peu de temps après leur mariage, et puis le pilote, on connaît aussi son nom. En même temps, il n'y a pas si longtemps, 304 morts en Colombie lors du tremblement de terre, et on ne sait pas leur nom. Et on n'écrit pas sur leur vie à chacun. Alors chacune de ces personnes a la même valeur. Dieu les a créées, Dieu leur a donné une âme. Ça veut dire que la mort de chaque personne a la même importance. Mais certaines morts ont plus d'impact que d'autres. Quand le roi Saül meurt, tous les hommes étaient dans le deuil, dit au verset 12. Ce jour-là, d'autres sont morts aussi sur le champ de bataille. Même les autres fils de Saül, il n'y avait pas que Jonathan qui est mort ce jour-là, Saül a perdu deux autres fils. Mais on est triste pour le peuple parce que Saül et Jonathan sont tombés, le chef du peuple et son fils aîné. C'est normal, leur mort a un impact parce que Saül et Jonathan sont admirés, ils sont connus et en plus ils sont chefs de file, ils sont chefs d'État. Et donc si eux meurent, le peuple dans son entièreté souffre. L'adversaire, les Philistins, prennent le dessus à cause de leur victoire et de la défaite de Saül. Voyez-vous, c'est le principe avec le Messie. Si notre Messie gagne, nous gagnons. Si notre Messie perd, ben, nous perdons. Comment est-ce que nous aurons accès au paradis? Ce n'est pas en essayant individuellement, chacun et chacune, d'y accéder, en faisant assez de bien ou de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre comme une image un peu loufoque, mais peut-être ça marche pas exactement, mais on n'est pas comme des prisonniers dans ces anciennes bandes dessinées ou dans ces anciens films où chacun est en train de creuser un petit trou en espérant qu'il va pouvoir creuser un tunnel pour sortir de prison. Ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que avec notre chef de file, il force la porte et nous sortons avec lui. C'est lui qui ouvre la porte de sortie. Et parce qu'il est parvenu à sortir, nous pouvons sortir par la même brèche. C'est ce que Jésus fait en tant que Messie. Il ouvre la porte du paradis pour nous, et tous ceux qui sont de son côté ont gagné avec lui. Mais si Jésus était perdant, alors on serait tous perdants aussi. Quand le Messie tombe, tout son peuple souffre. Deuxièmement, quand le Messie tombe, les tueurs sont punissables. Beaucoup de la place est donnée dans ce récit, vous avez remarqué, aux tueurs du roi. Et il faut clarifier qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Saül, en réalité, s'est suicidé. Si vous tournez la page au chapitre précédent, vous pouvez lire cela. C'est le récit qui fait autorité, qui décrit que Saül s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas souffrir la main de ses ennemis. Mais l'homme, il arrive au chapitre 2, chapitre 1 de 2 Samuel, du camp de Saül, verset 2, et il a la couronne de Saül et le bracelet de Saül qu'il a ramassé, et il dit que c'est moi qui l'ai tué. Quelque part, c'est une sorte d'euthanasie, qu'il est en train d'annoncer là. Verset 10, je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici, mon Seigneur. C'est un peu étrange parce qu'il dit cela et pourtant c'est faux. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ce mensonge? Ben peut-être d'une part parce que c'est un Amalécite. Vous avez remarqué que c'est comme ça qu'il est décrit. Et au verset 1, David vient juste de battre les Amalécites. Et donc lui, il essaie de trouver un moyen rusé de ne pas être tué par David. Je suis Amalécite, mais moi, il ne faudrait pas me tuer. Mais deuxièmement et principalement, il sait que Saül considérait David comme son ennemi, un rival. Donc il pense que s'il peut apporter la couronne de l'un et l'apporter à l'autre, il va recevoir la faveur du nouveau roi. Ton rival est mort. Maintenant, voici ta couronne de roi. Et en fait, il imagine une toute autre réaction de David. Il pense que David va mettre ses vêtements de fête, il va être dans la joie, il va fêter jusqu'au soir avec un grand banquet. Mon ennemi est mort. Mais quelle est la réaction de David? Verset 11, au contraire, David attrapa ses habits et les déchira. Tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même, ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül. David est choqué par ce que lui rapporte le soldat. Il est choqué. Pourquoi est-ce que c'est si grave ce que la Amalécite dit qu'il a fait, de supprimer le roi qui était mourant, qui est le roi qui ne devait plus rester au pouvoir. On a l'habitude avec la démocratie, je pense, d'être un peu blasé par rapport à ça, parce qu'on dit, voilà, si quelqu'un n'est pas bon, on va simplement le remplacer par quelqu'un d'autre. On va voir aux urnes, n'est-ce pas ? En France, par exemple, vous avez un président, il est populaire pendant environ 5 minutes, et puis après... on dit, oh non, on n'est pas, on va avoir des élections, et puis on va le remplacer avec quelqu'un d'autre. Et en Belgique aussi, évidemment, les gouvernements se succèdent, on va voir aux urnes, un autre parti va être élu, on aura un nouveau Premier ministre, et ça va continuer comme ça. On remplace les moins bons candidats par ceux qu'on juge être des meilleurs candidats. C'est comme ça que ça marche. Et il y a toutes sortes de scénarios, il n'y a pas que la politique, dans d'autres choses, dans les entreprises, par exemple, on dit, bah, lui, il ne fait pas un bon boulot, elle ferait un meilleur boulot et on le remplace. Parfois même dans la famille ou dans la vie, on veut éliminer un rival, on va remplacer quelqu'un qui gêne. Mais Saül était quelqu'un qui rendait la vie dure à David. Il le persécutait carrément. David n'avait-il pas le droit de le tuer ou au moins d'encourager celui qui l'avait fait? Non, David dit que l'étranger, verset 14, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Saül était un mauvais gars. Mais il était le mauvais gars, le roi, choisi par Dieu, par onction. C'est ça justement l'idée clé du Messie. Ça veut dire que s'attaquer à lui, ce n'est pas la même chose que tuer un rival ou un autre homme dans une bataille. C'est s'opposer à Dieu. Essayer de forcer le destin. David, il avait les promesses de Dieu. Il savait que c'était lui le prochain roi. Il savait que Saül n'allait pas rester roi. Mais il refuse de saisir les commandes. Il refuse de forcer le destin. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et il laisse faire Dieu. Et donc même quand David a eu l'opportunité de tuer Saül lui-même, dans 1 Samuel, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu atteindre le Messie. En fait, je pense que profondément, David savait que s'opposer au Messie, c'était s'opposer à Dieu. Le psaume que David écrit, le psaume 2, dit ceci, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Donc si on se ligue contre Dieu et si on se ligue contre le Messie, c'est la même chose. Saül était désigné par onction et il fallait que tout le monde respecte ça. Et donc avec le tueur présumé du Messie, David le condamne. Il le condamne à mort. Puisque tu as affirmé, verset 16, avoir toi-même tué celui que l'Éternel avait désigné par onction. Alors avec ces deux rois, peut-être qu'il y a des questions qui viennent à votre esprit et j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe dans ce récit parce que c'est un récit spécifique, c'est pas exactement la même situation que nous. Peut-être que tu es en train de se dire, mais pourquoi alors est-ce que Dieu a choisi Saül s'il était tellement mauvais? Pourquoi ne pas choisir directement David qui était un homme d'après le cœur de Dieu? Saül était un mauvais roi parce qu'il était impulsif, il était impatient, il était violent. Il était jaloux, mais il était le bon candidat pour ce que Dieu voulait faire. Ça, c'était apprendre une leçon à son peuple. Et il voulait que son peuple apprenne ce que c'est d'avoir un roi humain faillible pour se rendre compte de la bêtise de demander un roi humain plutôt que de simplement faire confiance à Dieu qui était leur vrai roi. Et Saül était un très bon exemple pour leur enseigner cette leçon. David allait aussi échouer, mais il n'est pas meilleur que Saül. Mais Saül était quelque part une punition pour le peuple. Tout le monde a subi le fait d'avoir eu Saül comme roi, parce qu'eux avaient demandé un roi. Et ça nous rappelle que parfois, quand Dieu veut nous discipliner, il nous donne ce que nous avons demandé. Je pense à toutes nos sœurs à l'église et les attentes parfois d'un mari. Que vous soyez marié ou pas, vous avez une certaine attente, d'une certaine qualité de mari. Et pourtant, Dieu est le seul qui pourra vraiment vous satisfaire. Son amour, sa fidélité, sa gentillesse, son écoute sont tellement meilleures que celles d'un mari humain que c'est franchement ridicule la différence qu'il y a. Cherchez auprès de Dieu ce mari. Cherchez auprès de lui cet amour, cette constance. Et vous ne serez pas déçus. Revenons à notre sujet. Les tueurs du Messie sont punissables. Jésus aussi, le Messie, notre Messie, est mort. Et ceux qui l'ont tué méritent d'être punis. On pense à comment les rois se sont ligués ensemble, Pilate et Hérode. On pense à comment l'armée romaine s'est liguée contre Jésus et contre Dieu. Et même les Juifs de l'époque ont rejeté leur Messie. Quelque part, nous sommes solidaires avec l'humanité. Nous n'étions pas là, mais nous aurions fait de même. Les hommes et les femmes qui étaient là, qui étaient même des croyants en Dieu, ils ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas accepté son autorité sur eux. La question est donc, si les personnes qui rejettent le Messie méritent de mourir, comment allons-nous être épargnés? Comment pouvons-nous échapper au fait que nous, notre humanité, a tué le Messie que Dieu nous a envoyé? En fait, on ressemble à la Malécite, plus qu'on ressemble à David. Eh bien, la réponse se trouve avec un autre Saül, qu'on appelle Saul de Tarse, un homme qui persécutait violemment Jésus. Il ne se contentait pas que Jésus soit mort, il voulait tuer aussi les autres, les disciples de Jésus. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce, parce que Dieu aime tellement pardonner qu'il a voulu que ce Saül, Saul de Tarse, puisse être pardonné et amené dans le royaume de Jésus. Quand je dis que ces gens sont condamnables, c'est vrai. Comme nous, ils sont condamnables. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu peut récupérer n'importe qui, même ceux qui sont en opposition et qui l'ont pourchassé, qui ont voulu sa mort. Parce que Dieu est bon. Et parfois, il faut voir quelque chose d'horrible, quelqu'un d'horrible qui devient chrétien pour se rendre compte de la grandeur de la grâce de Dieu. Ah, même lui, il peut être pardonné. Ben oui, parce que Dieu est comme ça. Dieu est un Dieu de grâce. Le chapitre avance et on voit un troisième effet, dernier effet de la mort du Messie. Tout fidèle se lamente. On ne prend pas plaisir dans la perte d'un autre. Et ici, c'est un principe un peu plus général que simplement celle de Saül, le Messie. Mais c'est que nous ne devons pas prendre plaisir dans la chute d'un autre chrétien. David a écrit un chant de lamentation, appelé une complainte ici. Parce que les héros étaient tombés, parce que son ami n'était plus, parce qu'il était dans la douleur, verset 26. Verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. » On a besoin de chants qui nous permettent d'exprimer différentes choses. On n'est pas toujours en train de sauter de joie, n'est-ce pas, en tant que chrétien, même si on a toujours raison de nous réjouir. Mais on a des moments de la vie qui sont difficiles. Toby Mac est un chanteur-compositeur chrétien et il est passé par une épreuve très grande quand il a perdu son fils. Et j'ai écouté ce chant cette semaine où il décrit comment il est passé par ces moments difficiles. Il a presque s'enfoncer, c'est presque enfoncé dans le désespoir. Mais dans son chant, il dit, tu as été fidèle. Tu as été là, fidèle. Faithfully, c'est le titre de son chant. Et dans un autre chant, il réfléchit au paradis et il dit, oui, j'ai envie de me réjouir de penser au paradis, même si aujourd'hui la vie va bien. Quand Jésus est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les femmes se sont lamentées sur lui, dit Luc, en Luc 23, verset 27. Les deux qui marchaient vers Emmaüs, vous vous souvenez? Le lendemain ou le surlendemain de la mort de Jésus, ils avaient l'air sombre, ils avaient l'air triste. C'est normal que lorsque le Messie meurt, on se lamente. Imaginez la tristesse de ces gens. Je pense que c'est là où, dans le Nouveau Testament, on est le plus proche de 2 Samuel 1. Quand David meurt, il n'y a pas de lamentation, bizarrement. Il n'y a pas de deuil national. Mais quand Saül meurt, c'est comme après la croix de Jésus, où les disciples se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a tout perdu parce qu'il n'est plus lui avec nous. Ce n'est pas la fin de l'histoire. On en parlera après. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette section, c'est le verset 20, où il dit qu'il faut garder cette mauvaise nouvelle entre nous. Regardez verset 20. Ne le dites pas, ne l'annoncez pas dans Gath. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon, les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Alors là, il parle des villes. Des Philistins, d'accord? C'était l'armée des Philistins qui avait gagné sur Saül et qui avait tué Saül et Jonathan, blessé grièvement jusqu'à la mort. Et donc il dit non, en fait, il faudrait pas que eux ils entendent la nouvelle que Saül et Jonathan et les autres sont tombés. Il faudrait pas qu'ils entendent, sinon ils se réjouiraient de cette nouvelle. Et c'est le principe de ne pas rapporter les mauvaises nouvelles à ceux qui sont des opposants de Dieu. Ne pas parler de nos défaites, de ceux qui, dans le royaume de Dieu, chutent et tombent. Récemment, sur Netflix, est sorti un documentaire sur la mort de la femme du pasteur. Vous imaginez que moi, j'étais interpellé par ce titre. Bon, elle est morte. La mort de la femme du pasteur, c'est intéressant. Évidemment, quand on regarde cette série ou ce documentaire, le pasteur est vraiment mauvais. Donc ça fait l'exposé de sa vie. Et bien sûr, les choses doivent être amenées à la lumière. Bien sûr, c'est bien que la justice soit faite. Je peux regarder ce documentaire et être averti pour ne pas être ce type de pasteur moi-même. Mais ce qu'on voudrait circuler, si on avait le choix sur Netflix ou sur les autres plateformes, ce qu'on voudrait circuler, ce n'est pas les mauvais exemples de mauvais pasteurs. C'est les bons exemples. On ne voudrait pas rapporter les histoires scandaleuses et tristes d'hommes qui ont été hypocrites ou d'hommes qui ont trompé leur femme ou d'hommes qui ont été manipulateurs. On voudrait circuler les histoires d'hommes et de femmes qui ont été fidèles à Dieu et qui ont été fidèles à leur couple et qui ont servi Dieu de manière louable. Parlons de ce qui est noble et bon et vrai. Et ne promulguons pas les mauvaises nouvelles afin que le monde ne se réjouisse pas en disant « Ah, regardez les chrétiens, ils sont nuls. » Je conclue maintenant. J'espère que vous avez saisi à quel point c'était une triste nouvelle, la mort du Messie. David a refusé de se réjouir, même si ça allait lui faire du bien, ça allait lui rendre la vie plus simple. Et il a reconnu que c'était le Messie qui venait de mourir. Pour nous, bien sûr, notre Messie n'est pas Saül et il n'est pas resté mort. Et donc, lorsque nous regardons cela et nous pensons à quelques jours entre la mort de Jésus et sa résurrection, on peut comprendre leur tristesse. Mais on ne peut pas rester dedans. Parce que notre Messie, même s'il est mort, il est mort pour ressusciter ensuite. Et il est victorieux sur la mort. Il a été notre représentant. Mais maintenant, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Et il est notre sauveur vivant aujourd'hui. La tragédie aurait été qu'il reste au tombeau. Et l'autre tragédie aurait été d'oublier qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Parce que quand le Messie ressuscite, c'est tout le contraire que quand le Messie meurt. Son peuple maintenant se repose sur la victoire de Jésus. Son peuple est en sécurité. Les ennemis peuvent être pardonnés, même ceux qui ont amené la mort du Messie. Et quand le Messie ressuscite, tout fidèle se réjouit. Et donc oui, il y a des moments de tristesse dans notre vie, mais en tant que chrétiens, relevons nos têtes. Celui qui s'est présenté comme notre Messie, ce n'est pas Saül, ce n'est pas David, c'est Jésus. Et il est vraiment capable de nous sauver. Ce qu'il promet de faire, il l'accomplira. Il mérite toute notre confiance. Il mérite toute notre loyauté. Il mérite tout notre engagement. Parce que c'est lui qui nous apportera la joie et le pardon et la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Oui, notre Père, nous voulons nous réjouir parce que notre Messie est vivant. Il est passé par la mort à la croix, mais aujourd'hui, il est vivant. Il est à ta droite. Et donc, Père Céleste, nous voulons nous réjouir ce matin parce que les moments de lamentation et de doute et de perte sont finis pour nous. Nous vivons maintenant dans la confiance et dans l'espérance d'avoir part à la vie éternelle. Permets, Seigneur, que nous puissions apprendre de David et de son attitude empreinte de foi, de grâce et aussi de pardon. Merci parce qu'il n'a pas voulu se réjouir de la mort de son adversaire, il n'a pas voulu promulguer les mauvaises nouvelles, mais il a voulu en tout temps que tu sois honoré comme le vrai Dieu qui décide de notre vie, de notre avenir, de notre destin. Permets, Seigneur, que nous puissions découvrir plus sur toi à travers cette série en 2 Samuel, que nous puissions voir que tu es à l'œuvre pour nous. Et parce que tu veux nous sauver, tu veux être notre roi dans notre vie, à travers Jésus-Christ, en son nom.